Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal, c'est tout de suite avec Belinda Bosuma.
Gouvernement Samalou Kondé II, plusieurs ministres conservent leur poste dans les secteurs de l'économie et finance. Vous le savez, le ministère des petites et moyennes entreprises est désormais dirigé par Désiré Zinga et des défis attendent ce dernier. Nous en parlons dans ce journal avec l'analyste économique Al Kitenge. Nord Kivu, retour progressif de la population dans plusieurs localités de Malio à Beni Territoire, situation consécutive au déploiement de plusieurs unités FARDC pour contrer l'action des EDF dans la zone. À cela s'ajoutent des actions de sensibilisation de certains acteurs communautaires et des élus du terroir. Et puis, Marc Carnassoro est l'invité de ce journal. Le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri revient sur la recrudescence des violences des groupes armés Zaïre et Codeco dans le territoire de Djougou et nous dit ce que fait la MONUSCO pour mettre fin à ces tueries. Madame, Messieurs, bonjour. Remaniement du gouvernement Samalou Kondé dans les secteurs de l'économie et finance, vous le savez certainement, plusieurs ministres conservent leur poste comme Julien Paluku à l'industrie, Aimé Boji au budget ou Nicolas Kazadi aux finances. Certaines grandes figures y font leur entrée, notamment Vital Kamerhe à l'économie. Le ministère des petites et moyennes entreprises, ce secteur important pour faire émerger une classe moyenne dans le pays, est désormais dirigé par Zinga Désiré. Mais quels sont les défis qui attendent ce dernier? Écoutez la réponse de Al Kitenge, analyste économique. Il est au micro de Jocelyne Moussaoupondé.
Le deuxième ministre à impact économique qu'il faut regarder avec attention, c'est le ministre qui arrive au PME. Il vient du secteur de l'agriculture, le secteur qui emploie plus de 80% de notre population. Maintenant, tout le monde sait malheureusement que la plupart des entreprises qui sont dans le secteur de l'agriculture ne se considèrent même pas comme des entreprises. Les gens fonctionnent dans les formels. Il a là l'opportunité de créer des vrais agripreneurs, de créer des vrais PME du secteur agricole sur toute la chaîne des valeurs. Et aujourd'hui, ayant vu les défis qu'il y a dans le secteur agricole, en arrivant au ministère des PME, il doit se rendre compte qu'en fait, le plus grand défi des PME n'est pas en ville. Le plus grand défi des PME est dans le milieu rural. Et donc, il devra travailler avec son collègue du ministère du Développement Rural pour être en mesure de tirer les financements de toutes parts et être en mesure de les injecter dans les 145 territoires qui sont éminemment ruraux, pour être en mesure de pouvoir créer une véritable économie intérieure basée sur les chaînes de production et de valeur du secteur agricole.
Pendant ce temps, dans la province du Tanganyika, la nouvelle dynamique de la société civile territoire de Nyunzu dénonce la mégestion de l'argent perçu à titre de redevance minière par l'entité territoriale décentralisée qui est le secteur de Nord Lukuga. Dans une correspondance parvenue ce lundi à Radio Kapi, la société civile précise que cette redevance est versée par les entreprises MMR qui exploitent le coltan dans cette zone. Le chef du secteur mis en cause rejette ces allégations. Le point avec Paulin Munanga.
Dans cette correspondance adressée à la gouverneure du Tanganyika, la nouvelle dynamique de la société civile du territoire de Nyunzu rappelle que les carrières de ces territoires sont exploitées par des entreprises minières, mais cette activité n'a aucun impact social sur les habitants de Nyunzu. Le président de cette structure citoyenne a fait savoir que cela fait plusieurs mois que le secteur Nord Lukuga perçoit la redevance minière. Kimuni Muganza insiste sur le fait qu'aucune action de développement n'est visible dans les territoires. Les routes ne sont pas réhabilitées, aucune école ni centre de santé n'a été construit, souligne-t-il. Il accuse les chefs secteurs qui perçoivent cette redevance d'utiliser l'argent pour son intérêt personnel. Pour sa part, l'élu de Nyunzu, Emmanuel Mukundi, souligne que ce dossier préoccupe la population de ce territoire. D'après lui, difficile de savoir si ce secteur perçoit la redevance minière et c'est quel montant. Contacté, le chef secteur Nord Lukuga confirme que son entité bénéficie irrégulièrement de la redevance minière de la part de l'entreprise MMR. Cependant, précise-t-il, la somme perçue est insignifiante. Il souligne que ce peu d'argent permet d'étoler des écoles et d'accomplir certaines actions. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Rendons-nous dans la province du Maniema. Les femmes de la commune d'Alungouli sont sont appelés à briser la peur pour mériter les mêmes avantages que son semblable homme. Cet appel est de la coordonnatrice de la dynamique d'Alungouli pour le développement, appel lancé le week-end lors de la journée de réflexion avec les femmes leaders de cette commune, activité liée au mois de la femme pour Valencia Bigembe. Cette journée était une occasion pour elle de réfléchir sur comment faire pour développer et promouvoir ces femmes. Valencia Bigembe, dans ses propos recueillis par Florence Kiza.
Étant une ASBL qui vise la promotion du genre et vit les statistiques de la représentativité de la femme qui vaut à 5% dans les instances décisionnelles et la marginalisation de cette dernière à tous les niveaux, la DAD a jugé bon de chercher un cadre d'échange avec les femmes leaders de cette entité afin de réfléchir sur cette question et proposer des pistes de solutions pouvant permettre à la femme et la jeune fille de la commune d'Alungouli de se développer pour leur auto-prise en charge dans tous les domaines. Nous sommes convaincus que ces assises contribueront à l'éveil de conscience de la femme d'Alungouli marginalisée.
Direction le Nord Kivu, retour progressif de la population dans plusieurs localités du groupement de Malio, dans la chefferie des Bachou, au sud-ouest du territoire de Beni. Cela après le déploiement de plusieurs unités des FARDC pour contrer les attaques des EDF dans la zone. À ce renforcement des effectifs militaires s'ajoutent des actions de sensibilisation de certains acteurs communautaires et des élus du terroir. Récit des faits avec Marc Marofimbo.
Ces retours progressifs confirmés par la société civile locale est consécutif à la présence des unités des forces de la République démocratique du Congo venues en renfort dans cette zone qui était presque vidée de ses habitants. Certains acteurs communautaires et des élus du territoire ont également mené des sensibilisations pour encourager ces retours observés depuis mercredi dernier. D'abord la localité de Mabuku où plus de 40 civils avaient été tués, puis dans les villages de Mudimba, Maombi et Kininga où beaucoup de morts avaient été enregistrés. Le dimanche 26 mars dernier, des habitants qui n'avaient pas abandonné leur village ont échangé avec les agents de la CENI ainsi que les autorités de base à Mabuku. Objectif, voir dans quelle mesure répondent les opérations d'identification et enrôlement des électeurs suspendus lors de ces attaques. Les responsables de la CENI ont promis de ramener les matériels sur place et de rouvrir les centres d'enrôlement qui avaient été délocalisés à cause de l'insécurité. Rappelons que le délai de 15 jours de prolongation accordé par la CENI pour ces opérations dans toute la région expire le 1er avril prochain. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Cap vers le sud Kivu. La crise persiste entre un groupe de députés provinciaux et le gouvernement provincial. Ces députés s'opposent à la réhabilitation du gouvernement provincial par la Cour constitutionnelle et exigent la dissolution de l'Assemblée provinciale par le chef de l'État. Un autre groupe de députés provinciaux, dit acquis à la stabilité des institutions, s'oppose à la démarche de leurs collègues. Pendant ce temps, le gouverneur de province vient d'être notifié par la Cour constitutionnelle sur son arrêt du 22 mars dernier. Les détails avec Emmanuel et la Meji Wakabedi.
La déclaration du premier groupe de députés provinciaux a été rendue publique le week-end dernier à l'issue d'une plénière en session extraordinaire. Ces députés déclarent, je cite, « La Cour constitutionnelle étant incompétente à juger du fond de la motion de censure adoptée par l'Assemblée provinciale, ne saurait rétablir la confiance rompue entre le gouverneur Ngouabidié et l'Assemblée. » Fin de citation. Et à eux de poursuivre, « Notre lutte inlassable pour le changement doit se poursuivre contre vents et marées, sauf si le chef de l'État nous décharger de ce mandat par la dissolution de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Pendant ce temps, un autre groupe de députés provinciaux se déclare acquis à la stabilité des institutions provinciales et s'oppose à la démarche de leurs collègues. Ils rappellent que, selon la Constitution, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ces groupes appellent l'Assemblée provinciale et les gouvernements à orienter leurs énergies dans la défense des intérêts de la population incarnée par la vision du chef de l'État. Car selon eux, l'heure n'est ni à la division, ni à la chasse à l'homme, ou encore moins à la rébellion contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle.
Retour au Nord Kivu. La société civile du territoire du groupement de Banane de Kainama dans le territoire de Beni estime que 3 mois suffiraient pour l'enrôlement des électeurs au lieu des 15 jours supplémentaires accordés par la CENI qui prendront fin d'ici le 1er avril. Cette structure citoyenne parle de certains centres délocalisés à cause de l'insécurité dans la région, mais surtout des pannes de machines, à l'exemple du centre de Muziranduru et de bien d'autres. Tout en demandant à la CENI de prendre en compte cette problématique. Elle demande également à la population d'éviter de se faire enrôler plus d'une fois sous peine d'être radiée du fichier électoral et de perdre ainsi son droit de vote. Bienfait Baraka, membre de la société civile de Banane de Kainama, explique au micro de Marc Marofimbo.
Les activités d'identification et d'enrôlement dans le groupement Banane de Kainama involuent à pas des torties. Surtout, nous déplorons des pannes de machines que nous enregistrons sur terrain. Et cela impacte négativement les activités dans ces centres-là. Lorsque les machines tombent à panne, on est obligé de stopper et d'acheminer d'abord les machines, soit à Oicha, soit à Beni. Et cela arrête et stoppe les activités. Alors, les 15 jours que la CENI avait ajoutés, pour nous, c'est vraiment insignifiant. Il faut environ 2 mois, soit 3 mois. Cela va nous rassurer par rapport à ces activités. Alors, il y a encore un engouement et nous continuons à sensibiliser la population de venir nombreux. Au même moment, ceux-là qui s'enregistrent 2 fois, 3 fois, nous les interdisons de ne plus s'enrôler 2 fois parce que ils seront effacés, éligibles sur la liste de la CENI. Et au même moment, ils ne voteraient plus.
Actualité internationale.
Nous sommes en Mauritanie. La police mauritanienne a arrêté dimanche un des organisateurs de l'évasion de 4 terroristes début mars. Mohamed T. Di Abou Osama a été arrêté à Nouakchott, la capitale mauritanienne, par l'équipe de la Direction générale de la Sûreté nationale. Cette dernière indique que l'homme a orchestré l'évasion de la prison centrale de la ville le soir du 5 mars 2023. Le suspect sera renvoyé devant la justice à la fin de l'enquête. Du côté du Burkina Faso, nous apprenons que la junte au pouvoir a coupé la diffusion de France 24 sur son territoire. C'est à la suite d'une interview sur la chaîne d'information du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Cela quelques mois après avoir suspendu la radio France internationale. Et au Soudan, alors que des discussions s'ouvrent au pays sur les réformes militaires, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a appelé dimanche ses troupes à cesser de soutenir les dirigeants autoritaires afin d'appuyer la transition démocratique. La réforme des forces de sécurité est l'un des principaux points de tension dans les discussions sur le processus politique en 2 phases lancées en décembre. Ce dernier prévoit le retrait des généraux de la vie politique une fois qu'un gouvernement civil aura été mis en place.
L'invité.
Comme annoncé, ce midi, nous recevons le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, Marc Karnassoro. Dans une interview exclusive accordée à Radio Kapi hier, il revient sur la recrudescence des violences des groupes armés Zaïre et Codeco dans le territoire de Djougou. Que fait la MONUSCO pour mettre fin à ces tueries? Marc Karnassoro répond aux questions de Martial Kizabiamongo.
Monsieur Karnassoro, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette recrudescence des violences armées dans les territoires du Djougou ces derniers jours?
Au cours des 2 dernières semaines, on a assisté à une recrudescence des violences au niveau de Djougou, notamment en ce qui concerne les attaques contre les civils, contre les villages de la zone. De notre côté, nous avons réagi avec les FRDC pour mettre en place un dispositif qui a permis de limiter l'impact des attaques des groupes armés sur ces villages-là. Nous avons eu plusieurs attaques. Il y a eu une attaque sur Oro, il y a eu une autre attaque du côté de Drodro, il y a eu une attaque hier sur Bloukoua, attaque qui a été repoussée par les forces conjointes FRDC-MONUSCO, qui ont permis donc d'épargner la vie des populations civiles. Quand bien même les groupes armés, notamment le groupe Codeco, se rabat dans les villages pour assassiner les pauvres civils qui sont dans les champs.
Karnassoro, nous avons appris que 17 personnes prises en otage vendredi dernier par des hommes armés identifiés aux éléments de la Codeco auraient été exécutées par leurs ravisseurs le samedi. La MONUSCO est au courant de ces drames?
Je crois que nous sommes dans un cycle d'attaques représailles de part et d'autre. Il y a cela donc 72 heures, nous avons eu l'information selon laquelle 8 personnes appartenant à la communauté Lendu auraient été enlevées et assassinées à différents endroits, notamment au niveau du secteur Banyani Kilo, au niveau du groupement Anyolou-Tchoulou et au niveau de Higa Barrière. Au même moment, nous avons reçu l'information hier matin que 3 véhicules en partance pour Mongualou auraient été interceptés au niveau de Bambou et que les passagers de ces véhicules, qui étaient au nombre de 17, en plus des 3 chauffeurs, avaient été conduits du côté de Petsi par la milice Codeco. Là aussi, nous avons engagé les différents leaders communautaires et ainsi que l'administrateur du territoire au fin de vérifier et immédiatement d'essayer d'éviter que la situation ne dégénère et que quelque chose arrive à ces personnes civiles. Malheureusement, depuis ce matin, des informations circulent que ces 17 personnes, sinon ces 21 personnes, auraient été assassinées et donc par leurs ravisseurs. Nous, sur ce plan aussi, nous sommes en train de travailler avec le gouvernement provincial et les FRDC pour dès demain envoyer dans cette direction-là des unités avec des personnels donc de liaison pour essayer d'établir les faits. Je voudrais ici rappeler que l'enlèvement, la séquestration, l'assassinat font partie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et en tant que tel, il n'y a aucune prescription pour ces crimes-là, quel que soit l'auteur de ces crimes. Et donc j'en appelle ici aux leaders des groupes Zahir, aux leaders des groupes MAPI, aux leaders du groupe Codeco pour qu'ils fassent preuve à leur bon sens et que cette escalade s'arrête.
Alors, sur les plans opérationnels, la MONUSCO fait quoi concrètement pour arrêter ces tueries de civils, d'autant plus que dans votre mandat, la protection des civils est votre mission principale?
Écoutez, la MONUSCO ne peut pas être partout à la fois. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que nous avons 9 bases statiques au niveau de Djougou où nous donnons la protection à presque 900 000 personnes au quotidien. Vous n'êtes pas sans ignorer les attaques qu'il y a eu à Bloukoua le jeudi et le mercredi. Vous le savez aussi que ce sont les troupes de la MONUSCO qui sont intervenu pour repousser les personnes qui ont essayé d'attaquer le site de déplacés des Roos le vendredi matin. Donc nous sommes au quotidien à la tâche. Et c'est en cela qu'il est important que les groupes armés comprennent et aussi que les leaders communautaires comprennent qu'on ne pourra pas être partout à la fois. Et donc je crois que la MONUSCO et les FARDC font ce qui est possible.
Comment sortir maintenant de ce gouffre de violence alors que les groupes armés comme Zahir, Codeco sont tous signataires des actes d'engagement pour la paix à l'Ituri?
Je rappelle que les groupes que vous venez de citer ne sont pas des groupes qui viennent de l'Équateur, originaires du Maniema ou originaires de Lumumbashi. Ce sont bien des enfants d'Ituri qui massacrent des personnes d'Ituri. La représentante, la spéciale, l'a déjà fait lorsqu'elle était déjà ici. Nous en appelons aux communautés, nous en appelons aux parents pour qu'ils prennent leurs responsabilités et il est important que toutes les communautés se mettent ensemble, tous les parents se mettent ensemble pour dire une fois pour tous à leurs enfants, ça suffit.
Merci Karna Soro, merci.
Merci.
Voilà, c'était là notre invité, le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, monsieur Marc Karna Soro, qui répondait aux questions de Martial Kizabia Mungo. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikotati Vueta sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la mise en onde Pierre Diassinois. Merci d'avoir été des nôtres.